Bienvenue dans notre podcast réalisé avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Avec nous, Maître Joël Rasser, pour parler des dons familiaux, comment donner à ses enfants et à ses petits-enfants. Bonjour Maître Rasser.
Bonjour.
Quelles règles doit-on respecter vis-à-vis de l'administration fiscale, mais aussi pour éviter un conflit familial? Les donations comportent également des avantages fiscaux, Maître, c'est ce que vous allez nous préciser dans ce podcast. Et première question, tout d'abord, peut-on donner sans formalité une somme d'argent à l'un de ses enfants?
Bonjour. Alors, on peut à condition que ce soit un cadeau. Il y a une vraie différence entre le cadeau qu'on fait à Noël, qui peut être de plus ou grande valeur en fonction des familles, et puis le vrai don d'argent qui, quant à lui, doit être déclaré. Alors, un don d'argent doit être déclaré obligatoirement dans le mois du don. Alors, soit dans certains cas, ça peut être par un formulaire destiné à cet effet qu'on trouve sur le site d'impôts.gouv, mais qui doit rester dans des cas très marginaux. Ou alors, évidemment, je ne vais pas prêcher contre ma paroisse, vous allez voir le notaire qui va vous expliquer comment faire. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est évidemment mieux de faire le don par notaire.
Oui, car la loi n'interdit pas aux parents d'aider leurs enfants en leur faisant un gros cadeau à des dates clés, c'est ça?
Oui, c'est toujours le principe de la différence du cadeau du don. Alors évidemment, lorsqu'on est à Noël, aux anniversaires, idéalement, si vraiment dans l'esprit des gens c'est un cadeau et pas une donation, il faut aider les services fiscaux à le comprendre. Il est évidemment plus recommandé de faire le cadeau le 22 décembre que le 3 novembre si c'est un cadeau de Noël. Maintenant, si pour des raisons XY on veut le faire en dehors des clous au niveau des dates, mettez au moins quand vous faites le virement cadeau de Noël 2021 ou cadeau déménagement ou cadeau Pâques ou cadeau anniversaire. Alors certes, le fisc pourra l'interpréter comme il veut en fonction de ses règles à lui, mais au moins ça donnera un indice pour montrer qu'on était plus dans une optique de cadeau, qu'il n'y avait pas forcément cette intention de donner au-delà du cadeau.
Alors, est-ce que pour ces dons d'argent ou cadeaux dits dons manuels, est-ce qu'il y a malgré tout un montant maximum à respecter?
Ce serait trop simple. En fait, il n'y a pas de règle écrite à ce niveau-là. Ça dépend de différents critères. Alors, je sais que c'est une question que tout le monde me pose aussi dans le bureau. Alors, évidemment, au cas par cas, on interroge un peu les gens en fonction de leur patrimoine, de leurs revenus, de leurs habitudes, mais c'est vraiment un cas par cas et il faut être prêt à l'expliquer aux impôts. S'ils vous disent non, cette somme c'est pas un cadeau, c'est au-delà, c'est un don, il faut les aider à trouver des argumentaires si vraiment pour les parents c'était un cadeau. Pour quelqu'un, 2000 euros peut être un cadeau, pour quelqu'un d'autre c'est un don, pour quelqu'un même 10 000 euros ça peut être un cadeau. Quand il est millionnaire, 10 000 euros c'est un cadeau. Quelqu'un qui gagne un SMIC, 2000 euros c'est sûr que la question ne se pose même pas et que c'est un don. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est une question factuelle. Hein. Mais
oui,
on
ensuite,
peut aider un petit peu, orienter quand même les gens, mais il faut qu'ils nous expliquent et c'est du cas par cas.
Oui, donc ensuite c'est l'administration fiscale qui appréciera.
Qui a le dernier mot, ça c'est
au
clair.
Au cas par cas. Voilà. Pour résumer, que doit-on au minimum respecter pour ces dons de main à main qui ne nécessitent pas d'écrit?
Alors il y a un formalisme, si c'est vraiment un don, il y a un formalisme. Alors lorsqu'on a qu'un enfant et que la somme est de... Alors faible importance, c'est peut-être pas pardon, le mot, mais que le montant n'est pas très élevé, on peut envisager un formulaire qu'on envoie en double exemplaire. C'est le donataire, donc celui qui reçoit, qui le signe, qui l'envoie au service des impôts, dons et dépôts. Par contre, dès lors qu'il y a plusieurs enfants ou que les montants commencent à devenir significatifs, on ne peut que trop vous conseiller, évidemment ce n'est pas obligatoire, on ne peut que le conseiller, mais d'aller voir votre notaire pour qu'il vous explique. Alors déjà, vous avez l'enfant qui peut être marié, imaginons votre enfant est en communauté universelle. J'ai n'importe quoi, même si c'est un enfant unique, vous venez de vendre une maison familiale, encore une fois, j'invente, hein, par exemple 300 000 euros, vous dites, allez, je garde les deux tiers, mais lui, il en a besoin maintenant, il est en train de construire, je vais lui donner 100 000 euros. C'est très généreux. Vous allez le donner, vous dites, ah bah c'est pas obligatoire le don par notaire, on va vite remplir le petit formulaire. Sauf que votre enfant, il est marié sous communauté universelle. Vous le saviez pas, vous ne vous en souveniez pas, ou vous ne savez pas ce que ça implique. Résultat des courses, l'enfant reçoit ses 100 000 euros, il n'y a pas de papier qui est signé par ailleurs. Deux ans après, il y a un malheur et puis votre enfant divorce, bah, les 100 000 euros, il y a 50 000 pour l'un et puis 50 000 pour l'autre. Et ce n'est pas forcément comme ça que vous envisagez les choses. Lorsque c'est fait par un acte notarié, on peut dire que cet argent reste propre et personnel, peu importe le régime de l'enfant actuel ou futur, hein, puisqu'un enfant peut aussi par la suite changer de régime. Et il faut savoir que le fait de mettre l'argent sur un compte dédié, si par exemple on est en communauté universelle, ne suffit pas à rendre l'argent propre. Hein. L'intitulé des comptes, finalement, ce n'est qu'une aide, mais ce qui compte, c'est d'où vient l'argent. Et est-ce que c'est un bien commun ou un bien propre? Or, beaucoup de gens croient que parce que, enfin, du moins sous prétexte que c'est sur un compte au nom de l'un des époux, bah, du coup, cet argent est à lui. Ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est déjà une des choses. La deuxième chose, c'est que si vous êtes plusieurs enfants, on va repartir sur les 100 000. On a des parents hyper généreux, ils donnent 100 000 euros à tout le monde. Vous avez deux enfants. Il y a un des deux qui dit, bon, moi avec cet argent, je vais par exemple acheter un appartement. Et puis vous avez l'autre enfant qui dit, non, moi j'ai pas envie d'investir, moi j'ai envie de m'amuser, je vais tout claquer au casino, c'est mon dada en ce moment. 25 ans après, vous avez les parents qui décèdent. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a investi dans l'appartement, imaginons qu'il l'a encore, l'immobilier a augmenté, je ne parle pas de travaux qu'il aurait fait, hein. Je veux dire vraiment l'immobilier de par la conjoncture a augmenté et on estime que cet appart vaut aujourd'hui 160 000 euros par exemple, alors qu'il avait dépensé 100 000 pour l'acheter. L'autre, il a tout claqué au casino, donc forcément il n'a plus rien, hein, sauf s'il a eu beaucoup de bol. Donc qu'est-ce qu'on va faire au moment de la succession si celui qui a mis l'argent au casino le demande? Il peut rapporter la donation dans la succession, non pas pour 100 000, mais pour 160 000.
Il peut demander la plus-value,
ouais, la moitié de la plus-value
de son frère.
Ce qui est quand même fantastique quand on y pense. Hein.
Alors qu'ils étaient tous les deux, ils avaient eu la même chose. Donc personne n'avait été lésé dans l'affaire.
Non, absolument pas. Mais ils ont employé les choses différemment et on peut demander à voir l'emploi qui a été fait des choses. Et ça, c'est clairement quand même très injuste. Et en faisant un acte de donation partage devant notaire, vous dites, l'un a eu 100 000, l'autre a eu 100 000, on ne regarde plus ce qu'ils ont fait avec les sous, on estime que chacun a eu 100 000. Point barre.
Concrètement, comment on procède par exemple pour les dons d'argent assez conséquents, donc à ses enfants ou petits-enfants? Et dans quelle mesure c'est intéressant fiscalement?
Alors c'est intéressant fiscalement quand vous faites l'acte, vous bénéficiez des abattements à la fois généraux, on va en parler tout à l'heure, hein, peu importe ce qu'on donne, que ce soit de l'immobilier, des parts de société, etc. ou de l'argent. Et en plus de ça, vous avez des abattements qui sont dédiés aux dons de sommes d'argent. Alors le classique, c'est 100 000 euros par parent, par enfant. Et en plus de ça, quand c'est de l'argent, on peut rajouter 31 865 euros. Alors évidemment, il y a quelques petites conditions, mais c'est vraiment pas grand-chose à respecter. Il faut que la personne qui donne ait moins de 80 ans. Ça, c'est quand même souvent le cas. Il faut que l'enfant qui reçoive soit majeur. Alors ça, c'est important de préciser parce qu'on peut faire ce don d'argent aux enfants ou aux petits-enfants. Donc parfois, les petits-enfants, on leur dit « Ah, si vous voulez profiter de ce texte, attendez un petit peu, il a que 16 ans, etc. » Donc ça, c'est les deux critères de base au niveau des conditions. Et après, la troisième chose hyper importante, c'est qu'il faut que le don soit révélé dans le mois.
Et à cela s'ajoute le don Sarkozy.
31 865. Alors on l'appelait le don Sarkozy, ça a été pérennisé depuis, mais c'est lui qui l'avait institué et c'est vraiment dédié à ces sommes d'argent avec les critères que je viens de dire, oui.
Donc on peut donner à son fils ou à sa fille un total de 131 864 euros, c'est ça?
Absolument.
Sans que ce soit taxé.
Absolument.
Et ça tous les 15 ans, et donc là il n'y a pas d'impôt prélevé sur ce montant.
Voilà.
Vous l'aviez déjà rappelé dans un précédent podcast, Maître Rasser, il est intéressant de donner de son vivant pour éviter d'être taxé. Et donc il y a deux procédures, la donation et la donation partage. Vous pouvez nous rappeler les différences?
Bien sûr. Alors la donation, on parle de donation simple quand il n'y a qu'un enfant, tout simplement. Après, on peut aussi parler d'un acte de donation pluriel quand on fait une donation mais sans partage. Ça, ce sont des donations qui sont faites dans un but essentiellement fiscal. Vous avez une maison, vous avez deux enfants. Il n'y a pas forcément un des enfants qui la veut plus que l'autre. Donc à ce moment-là, on transmet. Alors, en général, les parents se gardent l'usufruit, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais donc ils donnent moitié-moitié en fait. Donc on crée ce qu'on appelle une situation d'indivision. Il y a bien eu le don, mais il n'y a pas eu d'attribution privative. Après, une donation partage, il y a forcément plusieurs enfants. Après, on peut même faire des donations partage transgénérationnelles. Hein, on peut faire un mix depuis quelques années entre les enfants, les petits-enfants, et ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi, en fonction des patrimoines, surtout pour des gens qui ont des gros patrimoines, de tout de suite allotir les enfants. Alors, pour revenir, donc, la donation partage, par exemple, vous avez le cas des parents. Ils ont une maison, ils ont un appartement. Ben, ils donnent la maison à l'un, ils donnent l'appartement à l'autre. Il y a eu un don, mais il y a aussi eu un partage, puisque l'un a eu la maison, l'autre a eu l'appart. Après, vous avez quand même le cas le plus classique, c'est monsieur et madame, ils ont une maison. On peut dire que la maison est pour l'un des enfants, et cet enfant paye ce qu'on appelle une soulte à l'autre, une somme d'argent qui représente la moitié du don. Donc là aussi, on part du principe qu'il y a eu la fois donation et partage. C'est vraiment ça la différence.
Dans le cas du don de la résidence principale familiale aux enfants, comment les parents peuvent procéder pour qu'ils restent malgré tout protégés jusqu'à la fin de leur vie?
Alors, donner, c'est bien. Il faut utiliser cet outil. On a la chance qu'il existe. Après, il est aussi normal que des parents qui ont travaillé toute leur vie, économisé, payé de l'impôt, soient protégés et qu'on puisse pas faire n'importe quoi en tant qu'enfant avec leurs biens. Donc, ce qu'ils font 9 fois sur 10, peut-être pas, mais enfin, très souvent, ils gardent l'usufruit. En fait, la pleine propriété d'un bien se décompose entre deux choses, la nue propriété et l'usufruit. Le nu propriétaire, en général, après la donation, c'est l'enfant. C'est le vrai propriétaire, mais il est privé de la jouissance du bien. Le parent, est usufruitier. Ça veut dire qu'il jouit du bien, il peut vivre dedans, il peut le louer, tirer les revenus, il va le gérer, il va avoir la joie et le plaisir de continuer à toujours payer tous les impôts, taxes d'habitation, taxes foncières, tutti quanti. Donc tout ça, ça ne va pas changer son cadre, son niveau de vie dans l'absolu. Donc ça, déjà, c'est très très important. Deuxième chose, s'il y a des parents qui me disent « Oui, mais ok, tout ça c'est bien beau, mais moi je décide. Si je vends ma maison, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider à ma place. » Alors les enfants ne pourront pas décider de vendre, mais ils peuvent empêcher le parent de vendre s'ils sont pas tous d'accord. Donc pour pallier à ça, si vraiment cette crainte existe, on peut préalablement mettre les biens dans une SCI. Après, pareil, il faut s'entourer des conseils de votre notaire pour voir s'il n'y a pas de plus-value, s'il n'y a plus de prêt qui génère un impôt, etc. Mais ça peut être une solution. Alors, ce n'est pas forcément l'inquiétude de la plupart des parents, mais si cette question vient sur le tapis, il y a des moyens quand même de protéger aussi au niveau des possibilités de vente. Mais l'essentiel, en général, qui inquiète les parents, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas me mettre dehors ? Ben non, jamais. Avec un usufruit, non seulement on vous mettra jamais dehors, mais en plus, vous pourrez toujours louer et tirer les loyers.
Donc, il peut être intéressant de léguer en nue propriété la maison familiale.
Oui. Absolument, puisque ça permet de garder l'usufruit et ça permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux dont on va parler tout à l'heure, très important au niveau de l'usufruit et de la valorisation de cet usufruit.
Hein. Parce qu'on sera moins taxé, c'est ça ?
Oui, on sera moins taxé, en tout cas différemment. Pour vous donner un exemple, imaginons une maison à 300 000 euros. Vous avez les parents qui disent « c'est ma résidence principale, je vais donner la nue propriété, je réserve l'usufruit ». Imaginons qu'à ce moment-là, les parents ont 58 ans. Pas souvent, les gens commencent à réfléchir aux donations quand leurs enfants sont majeurs, qu'ils approchent tout doucement de la retraite. Donc, vers la petite cinquantaine, ils commencent à réfléchir là-dessus. Après, ça dépend des patrimoines des personnes. Mais souvent, c'est vers 50-60 ans. Hein. Imaginons 58 ans, maison 300 000. Le Code général des impôts a un barème qui détermine la valeur de l'usufruit. Donc en fonction de l'âge des parents, l'usufruit vaut un certain pourcentage de la pleine propriété du bien. Entre 51 et 61 ans, l'usufruit vaut carrément 50%. Entre 61 et 71, 40%, et ainsi de suite. En fait, plus on vieillit, moins l'usufruit a de valeur, parce que c'est calé sur l'espérance de vie. Donc quelqu'un qui donne avant ses 61 ans, on divise par deux. Votre maison de 300 000, fiscalement, vous la donnez pour seulement 150 000 euros. Donc l'avantage fiscal est quand même sur une assiette de 150 000 euros. Sur une succession qui est taxable, on est très vite à 30 000 euros d'économie grâce à ça.
Il faut donc, il ne faut pas le faire trop tard, c'est ça ?
Il ne faut pas le faire trop tard ni trop tôt. Alors, avant la cinquantaine, c'est assez rare, mais il faut faire attention aux dates, enfin butoir, façon de parler, mais disons, il vaut mieux le donner à 60 ans qu'à 62, parce qu'à 60 ans, vous déduisez 50% de la valeur, à 62, plus que 40. Après, il ne faut pas le donner à un moment donné où on ne se sent pas de le faire. Une donation, ça doit être quelque chose de réfléchi en famille. Mais si on est prêt à le faire, ça ne sert à rien d'attendre parce que, et d'une, plus vite, plus jeune on donne, plus on a d'abattement quand on garde l'usufruit. Et plus vite le curseur des 15 ans commence à filer, plus vite il est terminé, hein, parce qu'on souhaite longue vie à tous nos clients, mais soyons clairs, on n'est pas immortel. Donc à un moment donné, pour que ce soit pleinement efficace fiscalement parlant, il faut qu'ils vivent 15 ans. Maintenant, s'ils ne vivent pas 15 ans, on a quand même une optimisation fiscale qui existe. En fait, si les gens vivent 15 ans après la donation, on note complètement la donation du schéma. Donc là, c'est une optimisation fiscale à hauteur des 300 000 qui ont été donnés. S'ils vivent moins que 15 ans, ils ont quand même l'optimisation fiscale sur les 150 000 euros, puisque les 150 000 euros représentatifs de leur usufruit, ceux-là, ils sont définitivement sortis de leur succession, même s'ils meurent un an après la donation. Le seul cas de figure où l'optimisation fiscale ne joue pas, c'est en cas de décès dans les 3 mois de la donation, parce qu'en fait, les services fiscaux estiment que ça apporte de tels avantages, ces actes, qu'il y a un texte qui dit que lorsqu'il y a décès dans les 3 mois, ben, on remet les choses dans l'état antérieur.
Est-ce qu'un parent peut annuler une donation ?
Alors, ça peut arriver. Je l'ai heureusement pas vécu depuis que je travaille. Je pense que ça m'aurait fait bizarre, mais ça pourrait arriver. Alors, les cas sont extrêmement limités, évidemment. Alors, c'est le cas de l'ingratitude. Je m'entends, hein, c'est pas genre le poulet était trop cuit à Noël, hein, il n'était pas bon maman et maman qui se fâche et qui veut révoquer la donation. C'est vraiment des cas extrêmement graves. Par exemple, j'ai essayé de tuer mes parents. Par exemple, je les ai laissés mourir de faim sous un pont alors que j'avais reçu leur maison. Donc, des cas extrêmement, extrêmement importants.
Donc, des cas délictuels, voilà. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants.
Oui, non, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, effectivement. On a la réserve héréditaire qui doit le revenir d'office. Après, l'autre cas, c'est l'inexécution des charges. J'ai dit avant, il y a les interdictions de mise en communauté, les interdictions d'aliéner, d'hypothéquer, tout ça. Donc, si les enfants méconnaissent ces conditions qui étaient une condition de la donation, on peut annuler. Mais là, je pense qu'il y a aussi un notaire qui peut changer de métier s'il vend un bien sur lequel il y a une interdiction d'aliéner dessus, hein, puisque tout ça... C'est publié au livre foncier, donc quand on fait les recherches, on le voit, hein, c'est inscrit. Et après, il y a des cas de survenance d'enfants dans des cas bien particuliers.
Hein. Merci beaucoup, Maître Joël Rasser, pour tous ces conseils sur les dons familiaux. Merci.
Merci beaucoup.